Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un tueur à gages de 14 ans face à la justice, jugé pour avoir abattu un chauffeur VTC à Marseille en 2024, un adolescent recruté sur Internet par le crime organisé. Le Royaume-Uni, secoué par l'affaire Epstein, fragilisé par la démission de deux proches collaborateurs et poussé vers la sortie, le Premier ministre Keir Starmer refuse pour l'heure de quitter son poste. Et ce n'est pas la sortie dont je rêvais. Les nouvelles de Lindsey Vonn ce matin. Elle réagit sur les réseaux sociaux. La skieuse américaine, victime d'une fracture du tibia au jeu de Milan, Cortina, ne regrette rien.
Le procès d'un très jeune tueur à gages.
14 ans au moment des faits. C'est donc ce jeune garçon qui va comparaître ce matin à huis clos devant un tribunal pour enfants, jugé à Paris pour homicide volontaire en bande organisée, soupçonné d'avoir tué à bout portant en octobre 2024 à Marseille un chauffeur VTC, un père de famille qui n'était pourtant pas la cible de l'adolescent recruté sur les réseaux sociaux par le crime organisé. Guillaume Bier.
Oui, il fait partie de ces quelques ados à peine sortis de l'enfance et qui se sont improvisés tueurs à gages pour le compte de grands réseaux de trafiquants. Un jeune garçon placé en foyer dès l'âge de 9 ans parce que ses parents, trafiquants présumés, étaient incarcérés. Depuis le Gard, c'est en répondant à une annonce sur Snapchat qu'il a été recruté pour commettre un assassinat. 50 000 euros pour exécuter un rival de la DZN Mafia ayant tué un autre ado de 15 ans. Mais cette nuit-là, rien ne s'est passé comme prévu. Une altercation dans le VTC qui le conduit vers sa cible et l'apprenti tueur tire une balle de 357 Magnum dans la tête du chauffeur, un père de famille de 36 ans. Un drame qui pousse carrément le commanditaire depuis sa cellule de prison à dénoncer l'adolescent à la police. Lors de ce procès, il risque jusqu'à 20 ans de réclusion.
Et ne manquez pas, dans le journal de 8h, le témoignage de la veuve du chauffeur VTC tué par l'adolescent.
Et puis j'attends vos témoignages. Appelez-nous au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Cette question de l'hyperviolence des jeunes, explosion de l'ultraviolence, c'est l'expression du ministre de l'Éducation hier. Banalisation de la violence, voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Et vous, est-ce que vous constatez une banalisation ou une ultraviolence chez les jeunes? Je vous attends.
18 mois de prison avec sursis requis en appel contre l'enseignante soupçonnée d'avoir harcelé et humilié la jeune Evaël, 11 ans. Elle s'était donné la mort en 2019, place aux plaidoiries de la défense aujourd'hui. Retour maintenant sur cette histoire glaçante en Gironde. Ce photographe placé en détention provisoire pour détention d'images pédopornographiques. Nous vous en parlions en novembre dernier. Il est soupçonné d'avoir détourné des clichés d'enfants pris dans son studio, de les avoir déshabillés à l'aide de l'intelligence artificielle dans cette affaire. Et c'est une information RMC, on apprend qu'un collectif 300 personnes proches de ces enfants réclament plus de transparence, des parents notamment appelés à se signaler. Ils l'ont fait, mais depuis rien pour ces familles. L'attente est interminable. Pierre Bourgès.
Laurent s'est bien manifesté aux enquêteurs, mais depuis 2 mois, il ne sait toujours pas si des photos artificiellement dénudées de ses deux filles de 1 et 5 ans circulent sur Internet.
Je sais pas où ça en est. Ça me tracasse un peu. On voit une psy avec ma femme pour en parler un petit peu, pour essayer d'évacuer, parce que c'est très dur. Très, très, très dur.
Cette angoisse est partagée par de nombreux parents qui se sont constitués en collectif et qui ont décidé d'écrire au procureur.
Monsieur le procureur de la République, ce silence prolongé plonge de nombreux parents dans une profonde inquiétude.
Les deux filles de Karine sont aussi des victimes présumées.
Ils n'ont peut-être pas encore toutes les informations et ils peuvent peut-être pas en dire grand-chose. Après, effectivement, on a l'impression d'être là sur le bord de la route et d'attendre que quelqu'un veuille bien nous dire quelque chose.
Alors 2 mois après l'arrestation du photographe, le collectif espère une réponse à l'image de cette maman d'une fille de quelques mois, elle aussi concernée.
La réponse que j'aimerais avoir, c'est surtout savoir en fait que ça avance, pas de se dire on sait pas, est-ce que là pour le moment c'est en pause, est-ce qu'ils attendent quelque chose. Cette attente en fait, elle est interminable et c'est terrible.
Lors de la saisie du matériel du photographe, les enquêteurs avaient retrouvé des milliers de fichiers pédopornographiques.
Un reportage de Pierre Bourgès, correspondant à RMC à Bordeaux.
7h04 sur RMC, le Royaume-Uni secoué par l'affaire Epstein.
À tel point que le roi se retrouve dans l'obligation de réagir. Charles III sort de sa réserve et se dit prêt à aider la police, préoccupé par l'apparition du nom de son frère, Andrew, déjà destitué de son titre princier dans les derniers documents révélés par cette affaire qui secoue aussi Downing Street. Laura Calmus, vous êtes la correspondante RMC à Londres. L'étau se resserre autour du Premier ministre Keir Starmer, acculé de toutes parts, poussé à la démission.
Oui, en moins de 24 heures, le Premier ministre britannique a perdu deux proches collaborateurs. D'abord son chef de cabinet, Morgan McSweeney, puis son directeur de la communication, Tim Allen. Deux départs, directement de près ou de loin, liés à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur aux États-Unis, malgré ses liens connus avec Jeffrey Epstein. Alors pour la première fois, il y a aussi un poids lourd du Labour, le chef du parti travailliste écossais, Anna Starwar, qui appelle Keir Starmer à démissionner. Mais le Premier ministre s'accroche. Il a d'abord réuni ses ministres, puis les députés travaillistes à huis clos et a répété qu'il ne partirait pas. L'ensemble de son gouvernement a quant à lui publiquement apporté son soutien, notamment sur les réseaux sociaux. Keir Starmer qui obtient donc un sursis, mais la crise politique est loin d'être terminée à quelques semaines d'échéances électorales sensibles pour le Labour.
Et juste après ce journal, le récit des toutes dernières révélations sur cette affaire tentaculaire, l'affaire Epstein. 7h06, une femme à la tête de la Cour des comptes.
Et c'est une première. Amélie de Montchalin va succéder à Pierre Moscovici. La nomination de l'actuel ministre des Comptes publics par Emmanuel Macron sera officialisée demain en Conseil des ministres. Une macroniste de la première heure propulsée à l'un des postes les plus prestigieux de la Ve République, grâce notamment, Thomas Becker, à sa gestion du tumulte budgétaire.
Oui, ces dernières semaines, elle se retrouvait souvent seule sur le banc des ministres à défendre le gouvernement. Elle est très bonne sur le fond, reconnaît un député socialiste. Même les élus du RN l'épargnent, pédagogue mais aussi piquante, par exemple dans ses réponses aux sénateurs quand il reproche aux macronistes l'explosion du déficit. Formée à HEC, elle entre en politique en 2017 pour Emmanuel Macron. En 2022, elle perd son siège de députée. À l'époque, le président lui offre une porte de sortie avec un poste de diplomate économique. Cette fois, alors qu'elle fait partie des piliers du gouvernement Le Cornu, le chef de l'État lui confie à 40 ans un des postes les plus prestigieux de la République, un mandat irrévocable jusqu'à ses 68 ans. Le député LFI Éric Coquerel demande au président de revenir sur cette nomination qui pour lui ne remplit pas les conditions de neutralité et d'indépendance requises par cette fonction.
Thomas Becker, service politique RMC. Le début de 3 jours de grève sur Ubisoft en France mais aussi à l'étranger. Les salariés du groupe géant du jeu vidéo empêtrés dans les difficultés financières dénoncent des conditions de travail dégradées et un nouveau plan d'économie.
Pas de médaille pour les Bleus hier aux Jeux de Milan Cortina.
On retiendra tout de même la belle performance des danseurs sur glace. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, premiers sur l'épreuve de danse rythmique avant le programme de danse libre demain. On espère que la journée qui s'ouvre sera prolifique avec une première chance de médaille dès le début de l'après-midi en biathlon. Éric Perrault, sacré champion olympique dimanche sur le relais mixte, va prendre le départ du 20 km. À suivre également Jules Chappaz au départ de la finale du sprint en ski de fond et le début des épreuves de ski de bosse pour Perrine Laffont. Pour André Amanqué, restez sur RMC, radio officielle des Jeux de Milan Cortina. Des jeux qui sont terminés désormais pour Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute dimanche. Après seulement 13 secondes de descente, la skieuse américaine a été hospitalisée en soins intensifs. Et elle est sortie du silence hier soir, Léna Marjac, elle ne regrette rien.
Mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'imaginais. C'est par ces mots que Lindsey Vonn donne de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Dimanche, lors de la descente olympique, l'américaine de 41 ans, déjà diminuée par une rupture du ligament croisé du genou gauche, chute lourdement après avoir accroché une porte. Vonn, championne olympique de descente en 2010, souffre d'une fracture du tibia. Après avoir déjà été opérée à 2 reprises, l'américaine confie devoir subir d'autres interventions chirurgicales. Son choix de prendre le départ, Lindsey Vonn ne le regrette aucune. J'ai essayé, j'ai rêvé, j'ai sauté. La vie est trop courte pour ne pas tenter sa chance. Lindsey Vonn espère que sa résilience et son courage marqueront les futures générations. Croyez en vous comme vous avez cru en moi, conclut l'américaine.
C'était le journal de Thibaut Texer.